Le thème, le titre de ce message, je l'ai pris dans un verset de la parole de Dieu que je vous cite, ne le cherchez pas. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Si vous voulez le noter, c'est le psaume 30, verset 6. Et le titre de ce message, c'est « Ma grâce, la grâce, la faveur, la bonté de Dieu, la grâce du Seigneur, elle dure toute la vie. » Pourquoi un tel thème ? Eh bien parce que parfois nous vivons plus intensément le recours à la grâce de Dieu à certains moments précis de notre vie, peut-être au moment où nous saisissons le salut de notre âme, peut-être au cours de notre vie des expériences très particulières, et peut-être que à certains moments d'autres de notre vie, nous sommes moins dépendants de la faveur et de la grâce de Dieu. Et je voudrais qu'au travers de cette exhortation, nous puissions comprendre que du début, où nous avons commencé à marcher avec le Seigneur, jusqu'à la fin, nous devons dépendre totalement de la grâce de Dieu. Ce qui est compliqué dans la vie chrétienne, parfois, c'est cet équilibre entre la part de l'homme, ça a été rappelé encore tout à l'heure par un don spirituel, de la croix, la grâce coule. On peut dire que eh bien, le Seigneur il a fait plus de 99% de ce dont nous avions besoin, mais il y a quand même une petite part. Il faut s'approcher, il faut saisir. Et comprendre cet équilibre entre la part de Dieu et la part de l'homme est parfois pas évident dans certaines situations de notre vie. La grâce du Seigneur, elle dure toute la vie. Et vous êtes heureux si vous pouvez, comme le psalmiste, dire « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Pas forcément qu'à un instant, si précieux soit-il à notre existence, mais tous les jours comptant sur la grâce du Seigneur. Alors, voilà ce qui se passe dans la vie du chrétien, c'est qu'il paraît parfois plus évident dans certains domaines de notre vie de dépendre de la grâce de Dieu, et dans d'autres domaines, cela paraît un peu moins évident. Alors j'ai construit ce message de cette manière-là, c'est le plan du message. Il y a une première partie qui développe les domaines où c'est assez évident. Une autre partie qui développe des domaines un peu moins évidents et la troisième partie, des domaines où c'est beaucoup moins évident à nos yeux. Ce que j'ai rappelé la dernière fois, dans cette première partie, les domaines qui sont assez évidents, j'ai parlé de deux domaines particuliers, c'est bien sûr le salut de notre âme. Tout à l'heure, notre frère Janson nous a fait chanter ce cantique « Naufragé de l'océan » et nous a rappelé qu'à l'instant où nous nous sommes tournés vers le Seigneur, à cet instant où nous avons réalisé l'énormité de notre péché et que sans le secours d'une main, nous étions anéantis par notre iniquité. Comme quelqu'un qui se noierait dans un océan, qu'il cherche éperdument autour de lui une bouée et qui trouve dans la grâce de Dieu le moyen d'être sauvé. Voilà peut-être un domaine de notre vie où il semble assez évident de dépendre de la grâce de Dieu. La Bible dit ceci, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, verset 9, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il y a ce domaine particulier où nous donnons notre cœur au Seigneur, où nous crions à lui pour le salut de notre âme, où il semble assez évident. Alors je ne reviens pas sur tout ce que j'ai dit, parce que le mot évident, il faut aussi le relativiser, mais dans la pensée que nous avons ce matin, je le conserve quand même, où il semble évident que sans le secours de l'Éternel, nous ne pouvons pas être sauvés. La grâce puissante est suffisante pour tous. Et il est important de comprendre que ce n'est pas avec des raisonnements humains que nous pouvons comprendre ce qu'est la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu signifie que celui qui, point de vue humain, semble mériter le plus la faveur de Dieu, il reçoit la grâce de Dieu au même titre que celui qui, toujours sur le plan humain, semble le moins mérité la faveur de Dieu. Équité parfaite entre tous les hommes, la grâce de Dieu pour le salut de notre âme. D'ailleurs, l'exemple de l'apôtre Paul est significatif parce qu'il se présente lui-même comme le premier des pécheurs. Et il dit que le Seigneur l'a sauvé pour qu'il puisse montrer aux autres quel genre d'être humain Dieu est capable de sauver. Il est écrit ceci: « Je devais illustrer toute l'étendue de sa patience et fournir la preuve de l'immensité de sa bonté. Mon exemple, dit l'apôtre Paul, était destiné à encourager ceux qui croiraient en lui et à leur montrer quels hommes peuvent accéder à la vie éternelle par la foi. » 1 Timothée chapitre 1er verset 16, dans la transcription Parole vivante. Le Seigneur a fait plus des 99%. Pour autant, et c'est aussi l'équilibre de la vie chrétienne, nous devons saisir par la foi ce don si merveilleux. Il y a notre part à faire, mais je dirais que même dans ce petit 1%, sans la grâce de Dieu, nous ne pourrions pas y arriver. La grâce de Dieu dure toute la vie. Alors toujours dans ce premier thème des domaines un peu assez évidents où nous pouvons dépendre de la grâce de Dieu, j'ai cité aussi le domaine des épreuves. Combien d'hommes et de femmes sont venus au Seigneur ou sont revenus au Seigneur dans des circonstances tragiques, difficiles de leur vie. Et c'est lors d'une grande épreuve de sa vie que l'apôtre Paul a entendu cette parole du Seigneur: « Ma grâce te suffit. » Vous vous rappelez cet événement au cours de cette écharde? Il a entendu cette parole: « Ma grâce te suffit. » Il est dit dans la parole de Dieu: « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Dans Hébreux chapitre 4, verset 16. C'est en fait quand je comprends que je n'ai plus de ressources personnelles que je me tourne et que je me donne à Dieu pour recevoir, pour avoir enfin la possibilité, eh bien, qu'il me donne les siennes. Il y a dans les épreuves de nos vies des façons de s'approcher peut-être plus simplement, parce que nous arrivons parfois à des limites de notre vie où nous dépendons totalement de la faveur de Dieu. Et c'est d'ailleurs le sens de cette épreuve qu'avait connue l'apôtre Paul, pour qu'il puisse réaliser que quand il est faible, c'est quand il est faible qu'il peut réellement dépendre de la force du Seigneur. Ça, c'est, voilà un petit peu les deux domaines de notre vie où il nous semble assez évident, par l'expérience de ce que nous voyons et de ce que nous dit l'Écriture, où il nous semble assez évident de dépendre de la grâce de Dieu. Deuxième partie du message que j'ai partagé aussi la dernière fois, je redonne quelques éléments pour que chacun d'entre vous puissiez prendre le train en route de ce que nous allons partager après. Deuxième partie du message, il y a des domaines un peu moins évidents, où nous dépendons de la grâce de Dieu beaucoup plus difficilement que dans les domaines que j'ai déjà cités. Alors, j'ai pris deux domaines particuliers, c'est le domaine par exemple de la sanctification. Nous comprenons que le Seigneur Jésus est mort à la croix du calvaire pour notre justification, mais nous devons comprendre qu'il est mort tout autant aussi pour notre sanctification. La parole de Dieu dit ceci: « Or, c'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption » dans 1 Corinthiens chapitre 1 et le verset 30. Et la parole de Dieu dit ceci: « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété » dans Tite 2 et le verset 11. Nous devons apprendre à vivre, ce qui peut peut-être être comme une sorte de paradoxe dans notre vie. Oui, quand vous lisez les épîtres, vous voyez toutes ces exhortations: faites tous vos efforts, renoncez, détournez-vous du mal, où les apôtres, avec beaucoup d'insistance, nous apprennent à agir dans notre vie. Il y a aussi dans ce domaine notre part à faire. Mais il y a aussi cette dépendance de la faveur et de la grâce de Dieu. Nous ne pouvons pas y arriver par nos propres forces. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété dans 2 Pierre chapitre 1er. Tout comme la puissance de Dieu nous donne tout ce qu'il faut, Christ, la vie nouvelle, le Saint-Esprit, pour le salut de nos âmes, elle nous donne aussi tout ce qui contribue à une vie de sainteté. Nous avons besoin de réaliser, dans ces domaines particuliers de notre vie, qu'il y a notre part à faire, mais qu'il y a aussi toujours cette dépendance de la grâce, de la faveur et de la bonté de Dieu sur nos vies. Oui, ma grâce, elle dure toute la vie. Et puis j'ai cité aussi la dernière fois un autre domaine qui me semble où il est moins évident de dépendre de la grâce de Dieu, c'est le domaine du service. Si nous pouvons servir le Seigneur, et nous devons le faire, ce n'est qu'un effet de sa grâce. L'apôtre Paul rend lui-même ce témoignage, il dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi » dans 1 Corinthiens chapitre 15. Et lorsqu'on étudie la parole de Dieu, je l'ai dit la dernière fois, on se rend compte que le mot qui a été utilisé, « charisma », pour parler du don gratuit de Dieu qui a été donné pour le salut de notre âme, c'est le même terme que l'apôtre Paul emploie pour parler des différents dons que Dieu nous accorde pour le service, pour le servir. Charisma qui veut dire c'est une faveur que l'on reçoit sans aucun mérite de notre part. C'est pour cela qu'il est important aussi, vous savez, parfois dans le service, on est pris un petit peu par tout ce que nous faisons, on est pris peut-être aussi par les compétences, les dons aussi que le Seigneur nous donne. Et parfois, nous ne voyons plus vraiment derrière le service que nous faisons la grâce et la faveur que Dieu nous accorde. Et c'est important pour nous de continuer à dépendre toute notre vie de la grâce de Dieu. Oui, ma grâce dure toute la vie. Alors excusez-moi, j'étais un peu long pour vous raccorder un peu sur ce que j'avais déjà partagé. Et je voudrais venir maintenant sur cette troisième partie. J'ai parlé des domaines assez évidents, salut de notre âme, les épreuves de notre vie. J'ai parlé de domaines un peu moins évidents, la sanctification, le service. Et on va parler maintenant de domaines beaucoup moins évidents, où nous avons besoin tout autant de dépendre de la grâce de Dieu. Alors, ce premier domaine, c'est croire que le pardon est toujours possible. Autant il semble évident de dépendre de la grâce de Dieu lors de notre conversion, nous reparlions tout à l'heure, et en écho avec ce que disait notre frère Janson tout à l'heure, de ce moment précis où on avait l'impression que sans le secours de Dieu, nous étions totalement perdus. Ce moment qui nous semblait presque évident de saisir à pleine main la grâce que le Seigneur nous accordait pour le salut de notre âme, autant cela semble évident dans cette situation, autant, et c'est tragique dans la vie du chrétien, autant il est souvent difficile d'en dépendre totalement à nouveau lorsque nous avons péché. Oh, me direz-vous, un chrétien peut-il pécher ? 1 Jean, chapitre 1er, verset 8, on le lit ensemble. 1 Jean, chapitre 1er, verset 8. Et oui, la parole de Dieu nous montre qu'un chrétien peut chuter. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. 1 Jean chapitre 1er, verset 8, l'épître de Jean, pas l'évangile, hein, 1 Jean 1, verset 8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. » Jacques le dit d'une autre manière, il dit « Car chacun de nous commet des fautes de bien des manières. » Jacques, chapitre 3, et verset 2. Alors, bien évidemment, sans parler de tous ceux qui pratiquent le péché et qui donc, de toute évidence, ne sauraient plaire à Dieu, nous devons être réalistes et comprendre que le péché se couche à notre porte, désireux de nous faire tomber en maintes occasions. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous a encouragés à prier de cette manière. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Nous savons que le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera dans 1 Pierre 5, verset 8. Et combien il est important pour nous de rester constamment sur nos gardes et de veiller. Comme le dit d'ailleurs cet autre verset, celui qui croit être debout, qu'il prenne garde de tomber dans 1 Corinthiens 10, verset 12. C'est peut-être facile parfois de pointer le doigt sur certaines situations. Mais prenons garde, mes frères et sœurs. Prenons garde. Veillons sur nos vies. Oui, un chrétien peut chuter. C'est vrai, l'Écriture ne se renie pas elle-même. Nous sommes appelés à être parfaits. Soyez donc parfaits, dit la parole de Dieu, comme votre Père céleste est parfait. Mais ne confondons pas le but à atteindre et le chemin pour y parvenir. C'est un drame pour le chrétien de se retrouver en faute vis-à-vis de Dieu. Et croyez-moi, il est souvent difficile de crier à nouveau à Dieu de la même manière et avec autant de détermination de dépendre de la faveur et de la grâce de Dieu comme lors du premier jour. Pourtant, nous ne devons jamais oublier cette parole. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Dans Ésaïe 55, verset 7, vous savez, quand on est chrétien, quand nous réalisons que notre vie, notre existence est devenue le temple du Saint-Esprit, vous savez, en maintes occasions, le Saint-Esprit est là pour nous interpeller. Et le Saint-Esprit nous interpelle parfois sur telle ou telle faute. Et le réflexe, malheureusement, souvent, c'est que nous essayons de nous en sortir par nous-mêmes. Et ainsi, on se retrouve dans une situation qui est parfois une situation qui n'est pas réglée, une situation qui va empoisonner notre vie et qui va empoisonner toute notre relation avec le Seigneur. Croire que le pardon est toujours possible, croire qu'il est toujours possible comme au premier jour. J'ai chuté une première fois, deuxième fois, troisième fois, la quatrième fois, cinquième fois, comprendre que le pardon est toujours possible. Toujours savoir que je peux dépendre de la grâce de Dieu et que je peux crier à lui comme au premier jour. Croyez-moi, c'est un domaine beaucoup moins évident pour dépendre de la faveur de Dieu. C'est un peu comme l'histoire de David qui a commis l'adultère avec Bathsheba. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le cœur de David. Peut-être pensait-il que le temps allait arranger les choses. Peut-être que David a essayé de minimiser dans son cœur la gravité de ce qu'il avait commis. Peut-être a-t-il essayé par tous les moyens de cacher les choses. Mais en tout cela, il luttait contre Dieu. Il déshonorait Dieu qu'il voulait servir. Et tout ce temps où il a résisté à Dieu est devenu en fait dans sa vie comme le passage d'un désert. Et sa vie intérieure n'était plus que désolation. David dit ceci, « Je gémissais toute la journée. Je gémissais toute la journée. » Pourquoi ? Je me suis posé la question. Pourquoi nous avons tant de mal à dépendre tout à nouveau de la grâce de Dieu dans ces moments ? Peut-être parce qu'on ne conçoit pas, c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure, peut-être parce qu'on ne conçoit pas tout simplement qu'un chrétien peut chuter, qu'un chrétien peut tomber. Alors on minimise l'affaire, on y met d'autres connotations, c'est une erreur, une faiblesse, un héritage familial, des choses comme ça. C'est peut-être parce que aussi c'est un échec de retomber. J'avais fait la promesse au Seigneur et j'ai failli. Promesse de fidélité au Seigneur. Peut-être aussi parce que nous sommes engagés. Peut-être parce que nous avons des responsabilités et que nous devons être aux yeux des autres des modèles parfaits. Nous avons notre fierté. Je peux vous dire que celui qui est devant vous n'est pas un homme parfait. Et que tous les jours de ma vie, je dois prendre conscience, moi aussi, que je dois prendre garde, veiller de ne pas tomber. Regardez, vous êtes toujours dans un genre, regardez chapitre 2, verset 1er. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. J'insiste, je fais une petite parenthèse. Dans tout ce que j'ai dit, je n'ai pas voulu dire qu'il était normal de pécher. Nous devons tendre à la perfection, c'est évident. Mais l'apôtre Jean dit ceci, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est que la grâce de Dieu, elle dure toute la vie, du premier jour jusqu'au dernier jour. Je dois dépendre de la bonté, de la faveur de Dieu. Oui, certainement des choses, des responsabilités qui sont dans ma vie. Il y a même péché sur lequel je dois m'imposer des choses. C'est complètement évident, pas besoin d'en parler des heures. Il y a des choses qui sont des faiblesses dans notre vie. Eh bien, il faut s'en séparer. Je veux dire, c'est pas la peine de... Mais franchement, vous croyez qu'on peut y arriver sans la grâce de Dieu pour nous soutenir ? Lorsqu'on essaye par nous-mêmes, un peu à l'exemple de David, de se dépatouiller de ces situations, nous pouvons crier à Dieu. Regardez 1 Jean chapitre 1er verset 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Alléluia. Je dirais qu'importe le nombre de chutes, c'est difficile à dire. Que ce soit la deuxième, troisième, quatrième, cinquième fois, que nous puissions dépendre de la grâce de Dieu comme au premier jour. Regardez le psaume 32. Psaume 32, je reviens sur David, psaume 32, verset 1er, dans cette fameuse circonstance dont je parlais tout à l'heure de l'adultère avec Bathsheba, et puis non seulement l'adultère, mais toutes les conséquences tragiques que a eu ce péché, il est dit ceci, « Heureux, heureux, celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a point de faute. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. Il est fondamental de reconnaître son péché. D'être comme un cœur à nu devant l'Éternel et de dépendre de sa grâce pour nous pardonner. C'est la base. Il faut reconnaître son péché. Reconnaître son péché. Et ensuite, il faut dépendre de la croix, de la grâce de Dieu, comme cela nous a été encore rappelé ce matin. De la croix, la grâce coule. Oui, comme le dit ce cantique, comme un fleuve, constamment. Sur nos vies. La grâce du Seigneur, elle dure toute la vie. Je reconnais mon péché, je me tourne pour recevoir la grâce de Dieu et ensuite, bien sûr, Je mets tout en œuvre dans ma vie pour me détourner du mal. Tout mettre en œuvre pour que, eh bien, je puisse humainement faire ma part et dépendre, bien sûr, de l'œuvre libératrice du Saint-Esprit dans ma vie. Je peux vous assurer que c'est un des domaines où il est beaucoup moins évident de dépendre de la grâce de Dieu. Et malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu, à cause des différentes raisons que je vous ai parlé tout à l'heure, sont en peine avec le Seigneur, ont une relation détériorée à cause d'une situation qui n'a pas été réglée devant le Seigneur. Il y a deux exemples assez flagrants de la parole de Dieu. C'est l'exemple de Judas, qui a vendu son maître, et l'exemple de Pierre. Judas, lui, il est resté sur cette tristesse d'avoir vendu le Seigneur Jésus. Il est même allé aux extrêmes d'éliminer sa propre vie. Mais par contre, l'autre, Pierre, va connaître le plein pardon. Il l'a renié, pas une fois, pas deux fois, trois fois, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Pierre a connu le plein pardon. Pierre a connu une réhabilitation extraordinaire. Il faut voir comment Pierre, tout à nouveau, recevant la grâce et la faveur de Dieu, est réhabilité par le Seigneur. Je vous le dis avec beaucoup d'insistance ce matin, le Seigneur veut que nous ayons la vie et la vie en abondance. Il veut que nous puissions être épanouis entre ses mains. Pour cela, nous devons continuer à dépendre tous les jours de notre vie de la grâce et de la faveur de Dieu. Je continue un petit peu. Il y a un deuxième domaine où il est aussi beaucoup moins évident de dépendre de la grâce et de la faveur de Dieu. C'est tout ce thème, vous savez, du domaine où nous devons ressembler à Christ. Vous avez chanté tout à l'heure, « Oui, près de toi, je veux demeurer. Oui, je veux te ressembler. » Vous savez, dès le début de notre conversion, nous savons que nous devons changer. C'est d'ailleurs tout le sens du mot « repentance ». Repentance traduit le mot « métanoïa ». Métanoïa qui veut dire changement de nous, changement de notre être, changement entier de notre vie. Et nous savons que ce changement doit produire des fruits. Jean-Baptiste dira ceci, « Produisez donc du fruit digne de la repentance » dans Matthieu chapitre 3, verset 8. Dès le début de notre conversion, nous savons ce que le Seigneur attend de nous, non seulement lui, mais autour de nous, les frères et sœurs, autour de nous, des yeux, des voix, plus ou moins bienveillantes, on n'aura peut-être pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais tout cela est fait pour nous rappeler l'impératif du chrétien qui est de changer et de produire des fruits de ce changement. De plus, lorsque nous lisons la parole de Dieu ou que nous écoutons certains messages, nous avons très souvent cette exhortation qui revient et qui repasse devant nous. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu dans 1 Jean chapitre 2 et verset 6. Nous savons, c'est impossible de ne pas le savoir, ce que le Seigneur et notre entourage, comme je disais, plus ou moins bienveillant, attend de nous. Et c'est là que les choses commencent parfois un peu à se compliquer. Parce qu'à cela vient se rajouter un certain problème, dirons-nous. C'est qu'après notre conversion, nous avons pu nous rendre compte et nous apercevoir que le divin sculpteur qui a commencé cette œuvre dans nos vies, il a bien dégrossi. Mais l'œuvre parfaite qu'il veut faire en nous, il y a encore besoin de quelques coups de burin pour que ça aille un petit peu plus loin. On se rend compte qu'au lendemain de notre conversion, le tempérament, le caractère, voilà, toutes ces choses sont encore là, un peu avec cette vieille nature, qu'il y a encore beaucoup de travail sur notre vie. Je sais que certains pensent que notre caractère, ce n'est pas le plus important aux yeux du Seigneur, au vu de certains péchés parfois qualifiés de grossiers. Mais je peux vous assurer que le fruit de l'Esprit ne peut se développer en nous qu'au travers d'un changement profond de notre personnalité, métanoïa, de notre tempérament et de notre caractère. Ainsi donc, un chrétien sait ce qu'il doit être, ce qu'il doit devenir. Un chrétien sait quels fruits doivent émaner de sa vie. Et là, on se place devant deux choix. Il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a que deux. Soit je vis cette transformation progressive qui me fait toujours plus ressembler à Christ, soit je joue un rôle et je deviens un chrétien de façade. Je sais ce que le Seigneur attend de moi, je sais ce que les autres aussi attendent de ma vie. Mais si je ne laisse pas le Seigneur travailler au plus profond de moi, je joue un rôle et je deviens un chrétien de façade. Certes, c'est un rôle difficile à tenir. La parole de Dieu dit ceci, c'est Jésus qui le dit, « Considérez ou bien que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car c'est à son fruit que l'on reconnaît l'arbre. » Ce que Jacques dira, je vous ai cité Matthieu 12, 33, ce que Jacques dira en d'autres termes, « Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source par la même ouverture ? Un figuier, mes frères, peut-il porter des olives ou une vigne des figues ? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce » dans Jacques 3, 11 et verset 12. Pourquoi est-il si difficile de changer et de ressembler toujours plus à Christ ? Eh bien, tout simplement parce que dans ce domaine-là aussi, de la ressemblance à Christ, nous ne sommes pas assez dépendants de la grâce et de la faveur de Dieu pour œuvrer au plus profond de notre être. Certes, nous avons notre part à faire, et je parlais tout à l'heure de cet équilibre, il est fondamental aussi dans ce que nous partageons maintenant. Toutes les exhortations des Épîtres nous montrent clairement que nous devons faire tous nos efforts. Mais lorsque nous avons fait notre part et que nous avons fait ce que nous avions à faire, et qui est important sur un plan humain, bien sûr que c'est important, mais tout comme je le disais pour le salut, l'œuvre de Christ est ô combien beaucoup plus importante que tout ce que nous pourrions faire humainement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire humainement pour marcher sur la terre des hommes comme Christ a marché lui-même ? Si nous ne dépendons pas de la grâce de Dieu, nous essayons humainement. Nous devons et nous pouvons devenir semblables à l'image de Christ au milieu de notre génération. Et nous allons lire ce verset, 2 Corinthiens 3, verset 18. Je terminerai par cette pensée ce matin. 2 Corinthiens 3, verset 18. Il nous faut parler maintenant de l'action du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, tout simplement en considérant, vous vous rappelez, la transformation des apôtres le jour de la Pentecôte. Changer, transformer par la puissance et l'action du Saint-Esprit dans vos vies. Croyez-le, quand vous avez donné votre cœur au Seigneur, le Saint-Esprit est venu faire cette habitation dans votre vie. Oui, vous avez votre part à faire. Mais ô combien, pour ressembler à Christ, nous devons dépendre de la grâce et de la faveur divine pour nous transformer. On peut lire au verset 17, il est dit ceci, « Or le Seigneur, 2 Corinthiens 3, verset 17, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Amen. Nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Vous voyez cette progression dans notre vie de ressembler toujours plus à Christ. Et ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre du Seigneur, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas nous qui nous transformons, même si nous avons notre part à faire. Ce n'est pas nous qui nous transformons, mais c'est l'action de l'Esprit de Dieu qui nous transforme lorsque nous contemplons la gloire du Seigneur. Nous pouvons vivre une vie morale exemplaire. C'est possible. D'autres le font. Avec nos forces humaines, nous pouvons faire de grandes choses. Mais seul Christ en nous, par le Saint-Esprit, comme il l'a fait le jour de la Pentecôte. Vous les avez vus, ces apôtres qui ont eu peur, qui ont quitté le Seigneur Jésus. Certains ont chuté. Regardez la puissance du Saint-Esprit dans leur vie pour les transformer et pour les faire devenir de plus en plus à la ressemblance de Jésus-Christ. Seule l'action du Saint-Esprit peut nous permettre de produire pleinement le fruit de l'Esprit. Je vous le recite, ce fruit de l'Esprit. C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Dans Galates 5, verset 22. Combien nous avons besoin de vivre, mes frères et sœurs, dans ce domaine peut-être beaucoup moins évident, mais combien nous avons besoin de vivre la dépendance à la grâce de Dieu. Oui, la grâce du Seigneur, elle dure aussi toute la vie pour ressembler à Jésus-Christ. C'est Jésus qui vit en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est lui qui vit en nous et qui nous donne jour après jour la force nécessaire. Nous n'avons qu'une force par nous-mêmes, digne de ce nom pour être transformés à l'image de Jésus-Christ. Mais l'Esprit du Seigneur, l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, peut nous amener nous aussi à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Un dernier verset quand même. Jean 15, verset 4, ensemble, et nous terminons par cette pensée. Vous savez, la parole de Dieu dit que c'est Dieu lui-même qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui agit à l'intérieur de nos vies et nous devons constamment comprendre où mettre ce curseur de la part de l'homme et de la dépendance à la part de Dieu. Je sais que ce n'est pas évident et c'est pour cela que parfois nous avons des difficultés à marcher avec le Seigneur. Jean 15, verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au sceptre. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cèpe de la vigne, et vous en êtes les sarments. » Regardez cette fin d'exhortation. « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, a dit le Seigneur, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen.